Bienvenue sur l'émission Constellation, qui se propose d'explorer en votre compagnie les arcanes stellaires et diamantins où nous conduit la poésie de tout temps et de tout lieu. Bonjour. Dans un essai écrit entre 1945 et 1947, intitulé « Cette émotion appelée poésie », voici ce que livre Pierre Reverdy. Et le poète écrit. Il écrit d'abord pour se révéler à lui-même, savoir de quoi il est capable, pour tenter l'ambitieuse aventure d'accéder peut-être un jour au domaine féerique dont les œuvres qu'il aime lui ont donné l'insurmontable nostalgie. S'il est réellement marqué, il ne lui faut pas bien longtemps pour sentir et comprendre que ce qui importe, c'est d'arriver à mettre au clair ce qu'il a de plus inconnu en lui, de plus secret, de plus caché, de plus difficile à déceler, d'unique. Et, s'il ne se trompe pas de voix, il aboutira bientôt au plus simple. Car, si ce qui importe surtout, c'est ce qu'il peut avoir à dire pour exprimer sa personnalité la plus intime, ce qui importe autant, au moins autant, ce sera la façon de le dire. En effet, pour si étrange que cela puisse paraître, ce sera la façon particulière de dire une chose très simple et très commune qui ira la porter au plus secret, au plus caché, au plus intime, d'un autre, et produira le choc. Car le choc poétique n'est pas de même nature que celui des idées qui nous apprennent et nous apportent du dehors quelque chose que nous ignorions. Il est une révélation d'une chose que nous portions obscurément en nous et pour laquelle il ne nous manquait que la meilleure expression pour nous la dire à nous-mêmes. Cette expression parfaite, donnée par le poète, nous l'adoptons, nous nous l'approprions. Elle sera désormais l'expression de notre propre sentiment qui l'épouse. Et plus loin, il ajoute, ce qu'ambitionne de donner le poète, c'est bien entendu ce qu'il peut juger le plus digne en lui d'être aimé. Et bien sûr, non pas sa personne brute et commune, pour laquelle il peut n'avoir que fort peu d'estime, mais ce qu'il pressent de plus rare, de plus extraordinaire dans ses facultés, ce secret, cet intime, ce singulier, et mieux encore cet inconnu. Ce qu'il ne sait pas lui-même avec certitude qu'il a, dont il se sent cependant obscurément qu'il est fait, et dont il ne peut se prouver à lui-même qu'il l'a qu'en écrivant. Or, je l'ai dit, ses sentiments sont à peu près ceux de tout le monde, et il voudrait tant donner de lui quelque chose qu'il sent ne pas être à tout le monde. C'est ce que j'entends par l'indicible et qui pourtant doit être dit. Eh bien, rien de ce qui est finalement dit n'était réellement indicible. Cet indicible, c'est donc la façon dont les choses seront dites qui en tiendra lieu. C'est la façon de dire ces choses qui les rendra justement inédites et inséparables et qui permettra la soudure d'âme à âme dans le choc poésie. Alors le poète donnant ce qu'il a de plus précieux en lui-même, le lecteur le recevra à son tour dans ce qu'il a de plus particulier, de plus intime et de plus élevé. Ainsi, l'unique et l'unique se joignent dans l'essence de leur différence, si vous me permettez cette torsion du poignet. Mais le miracle, c'est qu'en vous parlant de sa propre misère, le poète vous libère de la vôtre par la seule vertu de l'expression qu'il vous en donne et que sans lui, vous n'auriez pas trouvé. Ce passage de l'émotion brute, confusément sensible ou morale, au plan esthétique, ou, sans rien perdre de sa valeur humaine, s'élevant à l'échelle, elle s'allège de son poids de terre et de chair, s'épure et se libère de telle sorte qu'elle devient, de souffrance pesante du cœur, jouissance ineffable d'esprit, c'est ça la poésie. La formule centrale des pages que je viens de lire, mais c'est la totalité de ce court essai qui propose un manifeste d'art poétique et aussi une tentative de définir l'essence du poétique, cette formule centrale qui cherche à définir le lien du poète à son lecteur, c'est la soudure d'âme à âme dans le choc poésie. La difficulté de qui se voudra le passeur pour que cette soudure qu'il a connue, d'autres la connaissent à leur tour, réside assurément dans ce qui caractérise le mieux la poésie de Reverdy, à savoir le lien entre le secret et la simplicité. Secret de ce que le poète ne découvrira qu'en écrivant, secret de ce que le lecteur ne percevra qu'à la lecture de ce qu'il pressentait peut-être, mais qui lui restait inconnu. En somme, un indicible vaincu, un indicible enfin dit, pour permettre la soudure des âmes. Soudure et choc poésie se conjoignent et s'opèrent à travers une langue et une forme d'une extrême simplicité, sans que s'abolisse pour autant l'inquiétude qui préside à un secret jamais tout à fait divulgué, jamais vraiment percé, comme une incandescence du secret. Ne dira-t-il pas encore être à la recherche, je le cite, de ce lieu secret où il se ressemble le plus à lui-même. Comme bon nombre de poètes, Pierre Reverdy, très tôt retiré près de l'abbaye de Solesmes, maintenait jalousement sa vie intime et secrète. Aussi, éviterons-nous l'écueil des repères biographiques. Mieux vaut, semble-t-il, lire le prière d'inséré qu'il rédigera en 1945 pour l'édition des poèmes datés de la Première Guerre mondiale ou dans les années qui la suivent immédiatement. Voici donc ce prière d'inséré. De ma vie, je n'aurais jamais rien su faire de particulièrement remarquable pour la gagner ni pour la perdre. Voici un témoignage partiel du genre d'activité qui a absorbé la plupart de mon temps. Qu'il n'y ait pas lieu d'en être exagérément fier, on n'aura pas besoin de me le dire. Nul doute qu'il y ait eu infiniment mieux à faire. Mais quoi ? L'occasion se dérobe à chaque tournant. Elle s'évanouit comme une ombre. Pourtant, je suis toujours plutôt un peu en avance au rendez-vous, parce que l'inexactitude et la politesse du peuple. Toujours debout, aux premières lueurs de l'espoir, je ne cède au sommeil qu'à la plus extrême limite du désastre. Hier encore, je contemplais les lueurs sinistres d'un ciel bouleversé que reflétait la surface unie d'un étang noir où venaient éclater par grappes empressées des bulles d'encre. Toujours, quels que soient les événements, des bulles d'encre. Je ne me réveillais, transi de misère et couvert d'une brume glacée, qu'au moment où l'on vint m'avertir que mon meilleur ami était mort, assassiné. On avait découvert son corps dans la cave d'un hôtel louche où ne fréquentaient que des gens totalement dépourvus de moyens d'existence. Le commissaire de police me demanda si je pouvais reconnaître le cadavre. Je l'apercevais par l'entrebâillement de la porte. La blessure était vraiment impressionnante. À partir de la pomme d'Adam jusqu'au dessous du nombril, il était ouvert comme un livre. Ouvert comme un livre, c'est l'invite lancée par le titre avec aphérèse, c'est-à-dire sans article, du recueil « Plupart du temps », témoignage de ce à quoi, en effet, le poète a employé son temps pendant la Grande Guerre et pendant l'intervalle qui précédait la Seconde, au cours de laquelle il allait conclure, selon son expression, un pacte avec le silence. Bien des poèmes de ce recueil nécessitent d'obéir à la belle injonction du titre de Paul Claudel, « L'œil écoute », car ils construisent une disposition typographique novatrice, d'autant plus qu'à l'exception des poèmes en prose, la ponctuation en est totalement abolie. Toutefois, radio oblige, c'est la lecture à voix haute qui tentera de restituer ce que l'on nomma une incandescence du secret. Je vais donc lire un premier poème, extrait d'un recueil intitulé « La lucarne ovale » et un texte qui porte le titre « D'un autre ciel ». Que veux-tu que je devienne ? Je me sens mourir. Secours-moi. Ah, Paris, le Pont-Neuf. Je reconnais la ville. Un peu jouir, un peu pleurer. Ma vie, est-ce vraiment la peine d'en parler ? Tout le monde en dirait autant. Et comment voudriez-vous que l'on passe à son temps ? Je pense à quelque autre paysage. Un ami oublié me montre son visage. Un lieu obscur, un lieu déteint. Pays natal qui me revient tous les matins. Le voyage fut long, j'y laissais quelques plumes. Et mes illusions tombèrent une à une. Pourtant, j'étais encore au milieu du printemps, presque un enfant. J'avançais. Un train bruyant me transportait. Peu à peu, j'oubliais la nature. La gare était tout près. On changeait de voiture et sur le quai, personne n'attendait. La ville, morte et squelettique, là-bas, dresse ses hauts fourneaux. Que vais-je devenir ? Quelqu'un touche mon front d'une ombre fantastique, une main. Mais ce que j'ai cru voir, c'est la fumée du train. Je suis seul, oui, tout seul. Personne n'est venu me prendre par la main. Un autre poème tiré d'un autre recueil qui porte le titre « La guitare endormie ». La guitare endormie, ça fait penser bien évidemment au mouvement cubiste. duquel Reverdy était très proche, puisque c'était un ami de Braque, de Picasso, de Juan Gris, etc. Le texte s'intitule « Bel Occident ». Entre le dos du livre et les feuilles du vent s'ouvre l'antre limpide où bouillonne l'écume, quand les rochers serrent les dents sur la langue de sable, les rangs de flocons blancs s'abattent, des regards faux fuient le long du navire et jusqu'à l'horizon. Et tout autre mouvement cesse. Là comme ailleurs, le dôme étoilé d'or se tient, sans l'aide d'aucune colonne ni chaîne, mais les jours sont un peu plus longs, rayés de bleu comme le sang des veines. Plus loin, on prend encore une autre direction, mais toujours les mêmes reviennent vers la colline singulière où le chemin tourne en montant jusqu'au rocher sanglant où périt la lumière dans les abattoirs du couchant. Un autre texte, toujours tiré du recueil La guitare endormie, est intitulé « Au bord des champs ». Je croise la maison, toujours inhabitée, au bord du sol qui devient dur et change sa matière. Là se tient le grand homme, lourd et robuste, appuyé contre un arbre. La rive est plus basse que l'eau. Le ciel est plus profond et moins lourd sans nuages. Je crois que les voisins sont assez inquiétants. Mais on parle sans peur quand, même dans le soir, et aussi le matin entre les doigts des feuilles, à travers la vallée, à travers le jardin, et sur les grandes raies qui coupent ma lumière, ma place est marquée devant eux. Ils sont derrière le tournant, où paraît la rivière, et près du champ, trop clair, où se brise le ciel, où se brise mon cœur, si je quitte tout ce que j'aime. J'oublierai tout cela. Je partirai. Mais le chagrin pesant trouvera ma trace quand même. Je vais lire un autre poème tiré du recueil que j'ai déjà mentionné, La Lucarne Ovale, et qui porte le titre « Droit vers la mort ». Le matin allait à peine ouvrir son œil, sur la route où passaient les hommes gigantesques. Seul, il roulait sa boule parmi les yeux indifférents. Toute sa peine est étrangère aux autres, et lui ne cherche pas à savoir s'ils en ont. Où va-t-on ? Les trains bondés sont des portées musicales sonores. Suprêmes voix, elles s'accrochent au fil, retombent sur les rails et partent en télégrammes éplorés. On s'attend, l'espoir veille sur la route et dans le foyer. Demain, le soir ferme sur lui une immense paupière et la peur durera autant que la lumière. Il faut passer un espace infernal, risquer plus que l'on a, et partir, revenir, s'en aller. Plus de larmes enfin dans un cœur desséché. Un tourbillon l'a pris, et lorsque dans la nuit il tomba pour jamais, personne n'entendit le nom qu'il prononçait. Et enfin, un dernier texte, toujours tiré de la Lucarne ovale, qui porte le titre « Les vides du printemps ». En passant une seule fois devant ce trou, j'ai penché mon front. Qui est là ? Quel chemin est venu finir à cet endroit ? Quelle vie arrêtée que je ne connais pas ? Au coin, les arbres tremblent, le vent timide passe, l'eau se ride sans bruit, et quelqu'un vient le long du mur. On le poursuit. J'ai couru comme un fou et je me suis perdu. Les rues désertes tournent, les maisons sont fermées. Je ne peux plus sortir et personne pourtant ne m'avait enfermé. J'ai passé des ponts et des couloirs sur lesquels la poussière m'aveugla. Plus loin, le silence trop grand me fit peur. Et bientôt, je cherchais à qui je pourrais demander mon chemin. On riait, mais personne ne voulait comprendre mon malheur. Peu à peu, je m'habituais ainsi à marcher seul, sans savoir où j'allais, ne voulant pas savoir. Et quand je me trompais, un chemin plus nouveau devant moi s'éclairait. Puis, le trou s'est rouvert, toujours le même, toujours aussi transparent et toujours aussi clair. Autrefois, j'avais regardé ce miroir vide et n'y avais rien vu. Du visage oublié, à présent reconnu. Thank you. Au cours de cette émission, vous avez pu entendre tout d'abord de Maurice Ravel un morceau intitulé « Oiseau triste » interprété par le pianiste Menahem Pressler. Puis, toujours de Maurice Ravel, un extrait du Tombeau de Couperin, le morceau intitulé « Fugue » par le pianiste Bertrand Chamaillou. Et enfin, un extrait des 20 regards sur l'enfant Jésus d'Olivier Messiaen, le 11e regard intitulé « Première communion de la Vierge » avec toujours au piano Bertrand Chamaillou. Cette émission hebdomadaire est diffusée en direct les mardis de 10h à 10h30 et rediffusée les vendredis de 13h30 à 14h. Vous pouvez aussi l'écouter, la réécouter en podcast, comme toutes les autres émissions des RLP.